Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, le podcast où on parle de web développement, le seul, l'unique, et en français, c'est très rare. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Ouais, cette fois j'ai pas bugué, le dernier épisode j'ai un petit peu bugué, 2 secondes tu vois, il y a un petit... mais là ça va, c'est nickel, l'intro parfaite.
On fait un petit sommaire ou pas?
Ouais, un petit sommaire, ouais.
Peut-être juste avant de partir sur le sommaire, un grand merci pour toutes les personnes qui viennent liker, nous encourager, commenter les épisodes, mais aussi nous soutenir via le GitHub sponsor. Un grand merci à eux, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas à promouvoir le podcast. On est toujours en croissance et ça, oui, c'est grâce à vous. Et donc, un grand merci d'être là. Aujourd'hui, sur cet épisode, on va parler... de Google.io. Alors, on ne va pas parler de Kotlin ou de IA, mais on va regarder en fait à travers le prisme vraiment des éléments du web qui vont évoluer avec le prisme HTML, CSS. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur les dernières années et la QV 2024 reste un petit peu dans le même air parce qu'on arrive avec des nouvelles balises HTML qui sont de plus en plus implémentées dans les navigateurs. Merci la mise à jour automatique des navigateurs. Mais en tout cas, ils ont annoncé pas mal de choses, aussi sur l'animation, sur des balises, sur de la performance. Ça va être assez intéressant. Alors, ça va être technique sur du HTML, CSS, on est d'accord. Je pense qu'on arrive à un niveau là où, qui commence à être vraiment, vraiment intéressant. Et sans faire un gros spoiler, on peut dire quand même qu'il y a de plus en plus de choses qui sont natives et que le HTML et le CSS est en train de gratter des parts au JavaScript. Et je pense que c'est une très bonne chose.
Ouais, carrément. Ouais, de toute façon, alors les navigateurs, c'est notre plateforme en tant que développeur web. Hein,
c'est notre OS.
Qui rend notre travail. Voilà, c'est notre OS.
C'est notre OS.
Donc, c'est important de se tenir à jour parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a de plus en plus de choses qui sont implémentées nativement et sans JavaScript. Donc, on arrive à faire des choses de plus en plus sans avoir besoin d'utiliser JavaScript, etc. Donc, c'est très intéressant pour la perf. Pour nous aussi, c'est plus simple, etc. Donc, ça, c'est une très bonne chose et il faut se tenir à jour. Donc, l'épisode est là pour ça. C'est cool.
Exactement, exactement. Beaucoup de gens ont... Et avant de tomber dans la tanière du lapin blanc de chez Google avec toutes les balises, un petit retour vite fait sur les commentaires. On a eu pas mal de commentaires qui ont été assez instructifs sur de la migration de Symfony.
En fait, on avait parlé de Rector PHP dans le dernier épisode, un système pour améliorer le code de PHP, etc. Et on a eu 2 commentaires vraiment quasiment les mêmes où ils expliquaient que eux, ils utilisaient Rector en fait pour migrer des applications Symfony d'une ancienne version à la plus récente, etc. Donc ça, Rector leur permet en fait de migrer facilement. Et Rector, comme tu le disais, en fait, ça suggère du code et tu l'acceptes ou pas. Et après, du coup, tu fais ta migration beaucoup plus facilement, etc., que si tu n'avais pas Rector. Donc, outil très utile pour des applications un peu anciennes qu'on veut migrer sur des versions plus récentes. Il y avait ça. On a aussi un commentaire, parce qu'il y a eu la React Conf, je crois, juste la veille ou 2 jours avant le dernier épisode, et on n'en a pas trop parlé. Il y avait une annonce que personne n'attendait. En gros, c'était l'annonce de la React Conf. C'est Remix, en fait, qui... en fait, il n'y aura pas de version 3 de Remix, a priori, de Remix. Parce qu'en fait, il y avait Remix et React Router, qui étaient quasiment identiques, en fait, en termes d'API, tout ça. D'ailleurs, j'en avais parlé une fois qu'il y avait déjà tout dedans dans React Router, les actions, tout ça. Il y avait vraiment tout. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était double travail de tenir ça à jour. Donc, ils ont décidé... de migrer, enfin de repasser tout sur React Router version 7 qui va sortir.
De fusionner, quoi.
Ouais, de fusionner et de ne pas faire de V3 en remix, en fait, et voilà, de maintenir que React Router. Et voilà.
Donc, limiter les dépendances et aussi le temps de dev, quoi, de toute façon.
Ouais. Donc,
ça
sert à
rien de recoder deux fois la même chose.
Ouais. Personne n'attendait ça. Donc, voilà, c'était l'annonce de React. Et puis, il y a aussi, vite fait, sur le. Alors, il y a le React Compiler qui est sorti. Donc, au-delà de la version 19 de React qui est bientôt en version stable, il y a le React Compiler qui est sorti officiellement, enfin qui n'est pas encore totalement terminé, mais il y a un playground qui est disponible, on peut tester le code et ça nous donne le code compilé, tout ça. Donc il y a eu pas mal de tests, de vidéos, tout ça que j'ai déjà vu, et il a l'air assez efficace pour rendre un code vraiment plus performant. Même il y a des gens qui volontairement insèrent des choses qui ralentissent le code, et le compiler est capable de le rendre rapide, en fait, même si voilà. Donc il est plutôt efficace.
Donc en fait, tu es en train de dire qu'on va pouvoir coder n'importe comment et le compiler va gérer la perf pour nous. C'est bien,
on
ça.
On va coder comme des chèvres et puis... c'est peut-être ce qu'on fait déjà.
C'est exactement ce que j'allais dire. Je me dis, peut-être qu'en fait, on le fait déjà et on est persuadé qu'on est bon, mais en fait, on ne l'est pas du tout.
De toute façon, c'est ça. On en avait déjà parlé. C'est vraiment la raison de pourquoi le React Compiler est créé. C'est qu'on est sur certaines notions, on n'est pas très bon, et donc le React Compiler va régler tous ces problèmes. Donc voilà, même si on n'est pas bon, on aura un code performant. Et par contre, petite déception d'un autre côté, c'est que pour l'instant, il sera disponible, c'est pas un truc à part ou quoi que tu vas rajouter, c'est un plugin Babel, je crois qu'il y a peut-être une autre version, mais voilà, c'est un truc Babel, tu vois, qu'on rajoute sur ton tooling, tout ça. Donc c'est un peu dommage.
Après, de toute façon, ce qui est toujours problématique, c'est cette notion de build. En fait, ok, t'as un nouvel outil qui va compiler. Donc, de toute façon, si ça compile, c'est que c'est dans ton build. À un moment donné, il va falloir l'insérer dans ta phase de build, dans ton pipe de construction. Et donc, comme tout outil, il faut l'insérer au bon moment avec tout l'artifice qui va avec, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est la contrepartie inévitable. Enfin, tu peux pas faire ça, quoi.
Après, je pense que ça va évoluer sur d'autres tools, tout ça. Parce que moi, personnellement, Babel, j'utilise plus depuis un moment. Donc voilà, on verra. Il y a d'autres versions qui vont sortir. Mais en tout cas, c'est prometteur. Ça, c'est clair. Donc voilà, intéressant à suivre.
Cool. Allez, on part tout de suite sur Google. On retourne sur Google I.O. et toutes les annonces qui ont été faites. Alors, je crois que depuis le 24 mai, on est passé sur la dernière version de Chrome, le moteur de Chrome. À savoir que Chrome, le navigateur, mais Edge utilise le même moteur. Donc, c'est la version 125, je crois, ou 100, quelque chose comme ça. Et Firefox a aussi été mis à jour, on va dire, courant mai. En fait, ils ont un peu synchronisé toutes leurs mises à jour pour, on va dire, sortir des nouvelles versions en temps et en heure pour cet événement, quoi.
Ouais, sauf Safari qui traîne un peu des pieds. Mais... on va pas en reparler. C'est bon. Bref. Ouais. Bon, en tout cas, pour vous donner une idée des versions sur lesquelles on est au niveau des navigateurs, notez bien que la dernière Chrome. Alors, peut-être qu'il y en a une. On est quoi ? On est 29 mai. Si, quand même. Je pense pas qu'il y en a une depuis. 125 sur Chrome et Edge. 126 sur Firefox et 17.5 sur Safari. Voilà, qui est le petit. Mouton noir des navigateurs. Même s'il n'y en a plus que trois navigateurs aujourd'hui,
c'est quand même vachement plus facile, même si on rajoute parfois les moteurs sur mobile qui sont légèrement différents.
Ouais, alors ça, c'est un autre problème. Oui, c'est vrai que tu as raison d'en parler.
Ils ont fait une petite vidéo qu'on mettra évidemment dans les liens de l'épisode où en fait ils nous brossent un peu la dernière tendance sur le web UI qui est une version un peu designée où on rentre. Alors ils vont parler plutôt de design ou vraiment d'éléments HTML clairement.
Un peu les deux. Okay. C'est principalement CSS, mais il y a un peu de HTML aussi. Donc, c'est vraiment les choses qui arrivent, qui sont disponibles ou qui vont arriver. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, il y avait, concernant le web développement, il y a deux vidéos principales. sur le web UI, là, celle que tu dis. Il y en a une autre, c'est sur les web plateformes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis après, il y avait deux, trois petites vidéos d'un quart d'heure qui détaillent un peu les animations, des choses comme ça, les PWA, voilà. Il y a quelques vidéos, mais voilà. Les deux grosses vidéos sont là, on va en parler. Donc, la première était principalement CSS, HTML.
Excellent. Et ça vaut le coup de s'infliger les 45 minutes ou
oui.
C'est too much, c'est un peu long, ou pour le coup, ils ont vraiment condensé et ça vaut le coup.
Alors, si vous écoutez l'épisode, vous pouvez vous passer de regarder les vidéos.
On l'a fait pour vous.
On l'a fait pour vous. Non, mais après, c'est toujours intéressant. Franchement, je recommande toujours de regarder ça parce qu'il faut se tenir au courant voilà, pour faire évoluer ces façons de coder. Donc oui, c'est toujours intéressant de regarder, mais grâce à notre épisode, vous pouvez éviter.
Yes. Il y a une grosse partie de cette conférence, en fait, où ils ont parlé des animations. Il y a de plus en plus d'animations, on va dire, natives maintenant, qui s'intègrent directement. Alors, pour ceux qui sont un peu nostalgiques ou qui voudraient comprendre toutes les animations, on a fait une série il y a un an ou deux, je ne sais plus maintenant, où on parlait, en fait, de toutes les animations CSS. JavaScript, 3D, Lottie, tout ça, il y a une série d'animations. Vous pouvez aller voir directement ces épisodes-là où on vient parler en fait vraiment des fondations, c'est comment on utilise l'animation, qu'est-ce qui est déclenché dans notre navigateur, et tous ces concepts d'animation sont toujours les mêmes. Après, c'est les outils qui vont les déclencher, qui vont évoluer. Et là, en fait, pour faire court, on rentre dans le natif et en fait, on va pouvoir utiliser des scroll-driven animations. Donc, c'est des animations qui se déclenchent au niveau du scroll. Alors, historiquement, en fait, on a des grosses librairies comme GSAP qui vont venir interagir, où on va pouvoir mettre un gros paquet de JavaScript, pour faire court, pour déclencher en fait des événements au scroll et animer des éléments de la page. Et maintenant, ça passe en natif.
Ouais, ça passe en natif. Alors c'est vrai que Ouais, comme tu dis, les animations, surtout les scroll animations, c'est très très à la mode, depuis un petit moment, mais c'est même insupportable sur certains sites, tellement c'est insupportable, quoi. Mais c'est très, les marketing, les designers, tout ça, ils adorent ça, quoi. Donc, le problème, c'est que, comme tu dis, il faut mettre JSAP, il faut mettre une librairie, même s'ils ont fait de gros progrès au niveau du poids, etc.
De perf,
De perf, tout ça, JSAP est facile à l'emploi, tout ça. C'est celle qui est le plus utilisée, mais effectivement, c'est en natif. Alors, attention, la partie animation qu'on va détailler là, c'est principalement disponible que dans Chrome et dans Edge.
Et là, tout s'effondre.
Tout s'effondre pour l'instant parce qu'en fait, certaines sont dispo en flag. Et je crois qu'il y en a même. Ah, la scroll driven animation, c'est que en flag sur Firefox. Et par contre, tout ce qui est le reste, Safari ne prend rien pour l'instant en charge. Après, c'est pas très grave parce que finalement, tu peux peut-être faire un truc un peu progressif. Voilà, si ça le prend en charge, tu les mets. Si ça le prend pas en charge, bah, tant pis, il n'y a pas d'animation. Donc voilà, ceux qui ont Chrome auront les animations, les autres n'auront pas. C'est pas très grave non plus, sauf si ton client est sur Safari et te dit « Mais moi, j'ai pas l'animation. » Et là, t'es mal. Mais...
Après, pour revenir sur les animations, il faut bien garder en tête aussi que le mieux est l'ennemi du bien. Et souvent, on aurait tendance à en mettre trop. Alors là, je vais enlever ma casquette de développeur et mettre plus celle d'un designer ou en tout cas quelqu'un qui va se concentrer sur l'UX, même si nous, en tant que développeurs, à un moment donné, il faut qu'on se base aussi sur, qu'on s'intéresse un minimum sur l'UX, mais trop d'animation, en fait, vient totalement tuer l'expérience de navigation. Donc, il faut trouver la bonne proportion et pour revenir sur le sujet des animations, scroll, ok, ils ne sont pas disponibles, c'est pas grave, on vient dégrader l'expérience, mais on vient pas... En fait, c'est pas un moins qu'on a, c'est une expérience en plus qu'on donne à ceux qui ont le navigateur compatible avec les animations qu'on va faire. Ils vont avoir une expérience dite enrichie, mais les personnes qui n'ont pas les animations, ils ont pas, on n'a pas dégradé leur expérience de navigation à tel point que ça, elle est totalement pourrie. Ils vont voir les mêmes éléments, sauf que il y aura moins l'effet waouh. C'est tout.
Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'une fois que c'est implémenté, si dans un an Safari le prend en charge, bah, automatiquement, ça va fonctionner sur Safari. Donc, ça, tu travailles pour l'avenir, en gros. Donc, voilà.
Après, c'est quand même un petit investissement parce que toute cette technologie-là, justement, ils ont fait une petite playlist où, en fait, clairement, le nom de la liste, c'est Master the Art of Scroll Animation. Donc, c'est comment maîtriser l'art subtil, on va dire, du scroll animation. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est assez didactique. C'est des petites vidéos de 5-6 minutes où vraiment, il prend étape par étape et il nous prend par la main pour justement mettre en place ce système et en tout cas maîtriser cette nouvelle API de scroll animation.
Ouais, c'est top, hein. Il y a toute une playlist là, de vidéos, donc ça c'est parfait. Donc il y aura le lien pour si vous voulez apprendre plus sur les animations. Donc le truc, c'est que c'est quand les éléments rentrent dans la page, sont visibles, il se passe une animation, etc. Et tout ça, c'est du CSS, hein. C'est purement CSS, donc c'est plutôt pas mal. C'est un peu comme les timelines, tout ça qu'on utilise déjà pour les transitions, tout ça. Donc c'est vraiment pas trop compliqué à utiliser, ça donne des effets plutôt performants, c'est natif, donc c'est top. Et puis en plus, il y a dans le DevTools, en fait, maintenant tu peux inspecter en fait ces scroll drive animation.
Ah, ça,
tu peux faire marche avant, marche arrière et tout. Donc c'est, enfin, sur Chrome évidemment. Donc c'est plutôt, je pense qu'il faut commencer à se mettre tranquillement dessus, apprendre comment ça fonctionne et puis peut-être implémenter un petit peu quand vous êtes sûr que vos visiteurs tout ça sont sur Chrome ou des choses comme ça. De temps en temps, c'est vrai qu'on peut être amené à faire des applications où on sait précisément que là, ça sera du Chrome ou des trucs comme ça. Mmh. Et dans ce cas,
après, toute la difficulté, elle est le ratio entre le temps passé sur l'animation et qui paye. Tu vois, parce que en fait, c'est une nouvelle techno, c'est super cool, c'est super chiadé, ça fait un effet waouh de ma boule. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, on peut vite passer du temps à implémenter ça, à mettre en place ça, et il faut que le client aussi soit en accord avec le fait de payer ou le projet en fait soit calibré de telle manière que, ok, on va chercher cet effet waouh, mais ça prend du temps, et le temps, c'est de l'argent sur des devs où on doit industrialiser le truc. C'est toujours le compromis un peu compliqué, quoi. Par contre, moi, j'avais regardé, on suit déjà depuis pas mal de temps les view transition. Donc c'est des animations qui se déclenchent quand on navigue d'une page à l'autre. On avait vu que ça commençait à arriver tranquillement. Est-ce qu'il y a eu des évolutions là-dessus ou pas?
Alors, c'est déjà les self-document view transition. Donc, quand tu es une application interne, en fait, tu navigues entre les pages. Donc là, tu peux animer en fait la transition entre les deux pages, prendre un élément. Alors souvent, l'exemple qui est donné, c'est la photo qui s'agrandit, etc. Tu vois, quand tu es dans une liste, la photo de la liste, de l'item, elle va s'agrandir. C'est souvent l'exemple qui est donné, et c'est vrai que ça rend bien. Hein, c'est ce qu'on retrouve dans le mobile aussi, beaucoup dans les applications. Donc ça, c'est super sympa. Ouais, les applications natives. Donc ça, c'est cool. Évidemment, c'est toujours pas pris en compte sur Firefox et Safari, c'est en draft, ou je sais pas où ils en sont, mais c'est un petit peu en stand-by. Ouais, mais bon, ça va arriver. Mais en tout cas, sur Chrome et Edge, ça fait depuis la 111 que ça existe, donc ça fait quand même un petit moment. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est possible à utiliser. Après, il faut savoir aussi qu'il y a les view transitions sur le... des transitions de route, mais on a aussi des micros, tout ce qui est micro-interaction qui est possible, pareil, avec ce même système, c'est-à-dire quand tu animes en fait des éléments de liste, tout ça, tu vas supprimer un élément dans une liste, tu vas faire une animation. Donc ouais, il y a toutes ces possibilités en fait d'animer des micro-interactions, et ça, c'est pareil, c'est sur les view transitions aussi qui prennent ça en charge. Donc on parle beaucoup, tu vois, on parle beaucoup des routes transitions, mais il y a aussi toutes ces micro-interactions qui vont être possibles en fait.
Ouais, et pour le coup, ça fait un effet vraiment sympa sur, sur rajouter un item, enlever un item d'une liste.
Ou les trier, tout ça. Tu
exactement.
Vois, voilà. Donc et ça, c'est pas mal.
Ouais, top.
Ça vient d'arriver, ça, c'est tout frais. C'est sur les Chrome et Edge 125, voilà, tout ce qui est micro-interaction. Enfin, si tu... y a plein d'exemples déjà et ça donne... Ouais, ça, c'est vraiment c'est une des choses qui est vraiment intéressante, quoi. Et ce qui arrivera bientôt aussi, alors parce que tu as les View Transition au niveau des routes, qui est interne donc à l'application, et il y a les Cross Document View Transition qui vont arriver. Donc ça, c'est pareil, c'est une transition entre les routes. Mais par exemple, tu de temps en temps, t'as ton site, c'est sur un domaine, et puis tu vas envoyer des gens sur le même domaine, mais un sous-domaine, tu vois. Mm-hmm. C'est ton domaine, /.dev, sauf que ça va être podcast.dev. Donc là, entre ces deux domaines, normalement, ça ne fonctionne pas, les view transition. Et là, c'est, donc tu as Chrome 126 et Edge 126, et toujours pas Firefox et Safari, mais bon, voilà, sur Chrome. Et ben, on pourra aussi faire une transition entre les domaines, sous-domaines, tout ça. Donc ça, c'est pas mal aussi.
Ok, donc ouais, c'est en fait, on ramène l'animation non pas au niveau de l'interne du site, mais on passe au niveau supérieur et donc c'est la page directement, enfin le document dans ton navigateur, quoi.
Ouais. Donc voilà, les animations, ça arrive, mais pour l'instant que sur Chrome et Edge.
Autre point aussi, le fameux pop over qui arrive quasiment en natif, enfin pas quasiment, même en natif. Ouais. Là pour le coup, tu as fait un petit code pen qu'on pourra partager. Zéro CSS, zéro JavaScript, et en fait, au clic du bouton, on affiche, en fait, ça fait un peu l'équivalent d'une modale, en fait, on pourrait dire.
Ouais.
On l'affiche directement au clic tous ces fonctionnements, si on clique en dehors de cette modale, ça s'efface. Ouais, donc là, en trois attributs, même pas, non, deux attributs, c'est parti, quoi.
Donc, ouais,
c'est
magique.
Ouais, c'est super magique. Après, on rajoute un petit peu de style pour faire un petit effet sympa avec des animations en CSS pur. Et puis, c'est vraiment top, quoi. Et donc, ce pop-over arrive... Alors, ça, est-ce que c'est déjà utilisé, accessible?
Ouais. Chrome, ça fait... Chrome l'a implémenté depuis un petit moment, là, 114, donc ça fait peut-être plus d'un an. Et Firefox, c'est arrivé, et Safari 17, donc c'est assez récent dans Firefox et Safari, mais c'est, voilà, ça marche dans tous les navigateurs. Donc petit à petit, d'ici un an et demi, on pourra dire qu'une grosse majorité des gens l'auront disponible avec les mises à jour. Donc juste avec l'attribut, tu mets juste, on va expliquer pour ceux qui sont en audio, on attribue, donc le div, sur un div, tu mets popover, l'attribut, avec un ID. Et ensuite, le bouton target, en fait, popover target, c'est l'ID du div. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a aucun JavaScript, c'est natif.
Magique. Tu vois, moi, je suis curieux de savoir si, en fait, les grosses librairies de composants qui ont été designées, souvent, on va dire pour faire court, mais beaucoup, beaucoup de dev front ou de gros projets, en fait, vont s'appuyer sur cette librairie de composants. Je pense à ShadCN ou Vuetify ou Material Design, ou en tout cas une librairie de composants. Je suis curieux, en fait, si ces librairies de composants vont faire la migration pour enlever au fur et à mesure leur JavaScript de tu vois. Je suis vraiment curieux de ça.
Je pense, oui, ils vont le faire, mais pas dans l'immédiat, en tout cas, parce que en fait, quand tu as des librairies comme ça qui sont utilisées mondialement, tu t'ouvres à un panel de browser. Si tu n'atteins pas un certain pourcentage, tu ne peux pas implémenter
tu peux pas faire
parce que ça ne marchera pas. Donc souvent, dans les vidéos, là, surtout celle de Rachel Andrew, elle dit souvent, par exemple, le popover, elle dit en 2026, on sera assez couvert pour l'implémenter totalement dans les librairies, tout ça, quoi. Il y aura assez de couverture.
Et on va reparler de Rachel Andrew. Mais ouais, en fait, l'idée, c'est de commencer de garder un œil dessus. Et après, ça arrivera de manière native partout, dans toutes les librairies. Mais de toute façon, il faut un temps de transition entre l'apparition et l'utilisation, on va dire, de manière générale et globale. Quoi.
Mais, yes. Mais voilà, mais après, comme je disais juste avant, si jamais tu fais une... imaginons que tu fais une web app ou un truc comme ça pour une entreprise spécifique. Tu sais que les personnes vont utiliser Chrome sur leurs ordinateurs. C'est un truc intranet, tout ça. Et ben là, tu peux l'utiliser, quoi, parce que tu connais ta cible et tu sais que c'est Chrome.
Yes. Autre point aussi, ils nous ont fait une introduction sur le CSS Anchor Positioning API. Alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Alors ça, c'est un truc super intéressant, vraiment très intéressant. Alors, c'est encore tout frais, mais ça va être top, top, top. C'est de pouvoir positionner un élément par rapport à un autre. En fait, tu l'accroches dessus, donc tu lui donnes cette encre et il reste positionné par rapport à cette encre, peu importe si cet élément bouge, se déplace, etc., tout ce que tu veux. Donc, tu peux mettre à gauche, à droite, etc. Donc, tu peux faire des tooltips, ça, un peu comme on fait... dans pas mal de trucs, mais et pas que ça, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça peut être pour la navigation, pour le, tu sais, un sous-menu qui s'ouvre, etc. Et y a tout un panel de positionnement qui est disponible, et tu as même des choses un peu plus avancées où la pop-up là, va se déplacer si elle n'a pas assez de place. Tu l'as positionnée à droite, par exemple, et elle n'a pas assez de place, et ben elle va se mettre en dessous, ou des choses comme ça. Elle va s'auto-positionner. Mmh. Donc ça va assez loin dans les réglages, et c'est quelque chose qui va être vraiment... C'est très sympa à utiliser parce que ça va nous rendre, ça nous va nous faciliter la vie pour positionner des éléments. Donc là, on donne vraiment l'exemple de cette tooltip là qui s'ouvre, mais il donnait d'autres exemples sur les navigations. Enfin, on peut avoir plein d'exemples. Et ouais, ça c'est, je pense, c'est un élément qui est super intéressant à suivre et j'ai hâte de pouvoir l'implémenter.
Nice. Parce qu'en fait, ouais, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est c'est une sorte de position absolue ou relatif, mais intelligent. Où on a beaucoup plus de finesse et de contrôle en fait sur les possibilités, quoi. Donc
Le fixes par rapport à un élément, quoi. Tu lui dis ça c'est ton élément, tu restes accroché, quoi. Et voilà.
Ouais, mais un peu de la même manière que on fait avec du relatif absolu, sauf que en fait il y a toujours cette notion de parent et enfant, en tout cas d'encre, on va dire, de pas de maître, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais OK, il y a un élément qui va être l'encre et l'autre élément qui va être l'affichage qu'on va vouloir positionner. Donc ouais, c'est vraiment une connexion en fait entre deux éléments qui va nous permettre en fait de faire des affichages dits intelligents, quoi.
Les attributs, c'est tu donnes un nom en fait d'encre et ensuite tu positionnes par rapport à cette encre, ce nom, et voilà. Donc il y aura un lien sur l'explication de l'API, comment elle fonctionne, et ensuite il y a aussi un tools, en fait une page qui donne plein d'exemples en fait sur les différentes positions, etc. Donc tu cliques sur les éléments et ça te positionne différemment. Donc il y a plein d'exemples et
voilà. Intéressant. Ouais, là c'est vraiment il y a une démo interactive où pour le coup, en fait, on voit parfaitement la propriété avec la valeur dans laquelle on a la valeur qu'on a rentrée, et on voit directement visuellement en fait quel impact ça va avoir. Après, ce que je vois, ce qui peut être super cool, c'est mettre en fait de l'intelligence, parce que s'il n'y a pas assez d'espace, comme tu disais, en fait. OK, mon tooltip, je voudrais qu'il s'ouvre à droite, mais peut-être que la taille de l'écran ne le permet pas de mon utilisateur, sauf que je ne peux pas contrôler la taille de mon écran. Donc, on va calculer si l'espace est disponible et tout ça.
Ah non, c'est hyper complexe. Voilà, tu commences à faire en JS, là.
Exactement. Et là, en fait, on ouvre la boîte de Pandore avec des niveaux de complexité hallucinants. Là, en fait, on va pouvoir faire ça nativement et de manière automatique, quoi. Donc... Top.
Ouais, et tu vois, par exemple, tu as un tooltip qui s'ouvre au-dessus de l'élément, il reste ouvert et tu scrolles. Donc à un moment donné, il arrive au niveau du haut du navigateur. Et ben en fait, tu peux le faire passer en dessous, en fait, tu vois, par exemple, automatiquement, sans rien faire. Et ça, c'est des choses, oui, effectivement, tu peux le faire en JS, bah alors vas-y, c'est événement on scroll, etc., calcul, tout ça, performance, laisse tomber. Donc, c'est une propriété qui est hyper intéressante. Et pour moi, c'est une des plus belles propriétés là, qui arrive prochainement dans les navigateurs, parce que ça va nous aider à beaucoup de choses, en fait. Ça va nous simplifier la vie et toujours, tu vois, encore un truc, Popover, ça enlève du JS, ça enlève encore du JS, donc on enlève du JS. Bientôt, on ne fera plus de JS, peut-être.
J'y crois pas. J'y crois pas. Mais en tout cas, la tendance va là-dessus. Nice. Ouais.
Attends, j'ai pas dit, juste vite fait, c'est dispo dans Chrome 125 et Edge 125, et évidemment, pas sur Firefox et pas sur Safari.
Merci.
Passion.
Allez, autre point aussi qui est sorti, c'est le Styleable Select Element.
Ouais.
Donc en clair, quand on a un menu select, on va pouvoir en fait designer les éléments des options. Sauf que on va pouvoir avoir beaucoup plus de contrôle là-dessus. C'est la nouvelle balise HTML, c'est select option, c'est ça?
C'est plus simple que ça. Après il y a des balises un petit peu supplémentaires, mais c'est plus simple que ça. C'est qu'en fait c'est Uma, celle qui faisait la présentation CSS là, elle montre un tweet de 2017 ou 2018, je sais plus, où elle dit on peut toujours pas styliser les selects en fait en CSS. C'est toujours aujourd'hui, c'est toujours pas disponible. Et voilà, c'est vrai que c'était un problème en fait. On arrive avec du CSS à styliser aujourd'hui un peu plus poussé, mais c'est toujours du hack, etc. Et en fait, ça arrive là prochainement. Alors c'est encore expérimental, mais on va pouvoir styliser totalement les selects en fait. Donc il donne l'exemple du drapeau, etc. Donc là voilà, c'est assez l'exemple le plus parlant, c'est celui-là, le select avec la data list, où tu as des options avec le drapeau, etc. Et tu peux vraiment styliser comme tu veux avec le CSS, tout ça. Donc en fait, les selects vont devenir totalement stylisables.
On va dire des éléments HTML classiques, ce qui fait qu'on pourra injecter tout ce qu'on veut, par exemple une petite image à côté du nom.
Plus loin que ça encore. Même. Tu peux vraiment aller beaucoup plus loin. Donc c'est encore expérimental, mais tu vois, tu peux le faire avec un bouton dedans, etc. Tu peux vraiment customiser l'intérieur du select, et puis voilà, le rendu est totalement stylisable.
Ouais, par contre, ça va poser un problème aussi, et c'est peut-être pour ça que Safari est moins un peu friand de ce genre de nouveautés, parce qu'en fait, ça oblige aussi à mettre à jour le comportement de iOS, et de Android, mais en fait les selects sont interprétés différemment sur nos téléphones, parce que on a des selects qui sont, on va dire, un peu nativement interprétés, et là si on vient modifier les règles, eux aussi il faut qu'ils modifient leurs règles d'affichage, et là c'est peut-être beaucoup, beaucoup moins marrant pour eux, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont hyper réticents à mettre à jour, parce que ça les force à faire taquer de réécriture.
Ah ouais, c'est totalement. Bah ouais, c'est clair. Ça leur apporte pas beaucoup d'argent, tu vois, Apple, donc ça ne t'intéresse pas fort.
Et t'es dur avec Apple. Après, ce qui est aussi va être compliqué, c'est que vu qu'on va pouvoir designer et interpréter avec des couleurs, des borders, des choses comme ça, rajouter des images, aussi, ils vont perdre le côté uniformisation de leur kit UI, quoi. Alors, c'est à la fois bien et pas bien, parce que c'est super bien, parce qu'on a, en tant que dev, on récupère le contrôle, on peut designer et afficher ce qu'on veut parfaitement, au pixel, comme on veut. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'on va casser un peu les trucs natifs, et donc, potentiellement, j'entends déjà des designers dire oui, mais en fait, les gens sont habitués au kit UI de chez Apple ou de chez Android, et donc ils s'y retrouvent. Si là, ça change, ça bouscule les habitudes, tout. Ouais, je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur l'implémentation, là, ils vont, ça va transpirer, quoi.
Ouais, t'as raison, c'est vrai que. Non, C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, tu vois, donc tu as raison de dire ça. Effectivement, ouais, c'est un aspect à prendre en compte. Après, les designers, comme ils font jamais les maquettes mobiles, c'est pas un problème.
Et là, tu vois, on va se faire tracher par tous les gars qui jouent à Figma toute la journée.
Moi, à chaque fois que j'ai des maquettes, et la version mobile, ouais, bah tu fais comme tu veux.
Ouais, chaque fois, c'est ça, en fait. Okay.
Voilà.
Top.
Bon, en tout cas, c'est expérimental, donc ZispoCA en flag sur Chrome et puis pas du tout pour le reste. Donc, mais c'est encore expérimental, mais bon, à suivre. Aujourd'hui, on sait que ça sera possible dans quelques temps, donc voilà, à suivre, à voir comment ça évolue.
Après, même sur de l'expérimental, on se rend compte qu'aujourd'hui, le temps de latence entre l'expérimental et l'implémentation native dans les navigateurs est assez courte.
Et donc,
au final, ça pourrait arriver très très rapidement. Au final.
Ouais. Après, celui-là, c'est comme tu dis, c'est un élément qui est quand même central et c'est peut-être plus complexe que ce qu'on imagine. Donc, effectivement, peut-être celui-là sera un petit peu plus long, mais bon, on va.
À voir. Un autre élément qui débarque et qui vient en natif, c'est alors l'élément, on va dire details, mais ce que nous on appelle souvent accordéon, le côté je clique et ça va étendre les propriétés. Donc les propriétés sont cachées. Souvent c'est utilisé pour les foires aux questions. Souvent
les
FAQ. On clique sur la question, bim, on a la réponse qui est automatiquement développée et affichée. Et donc ça, c'est la balise details, je crois.
Alors en fait, la details, la details c'est déjà dispo et personnellement je l'utilise pas mal. Et c'est une très bonne balise. Alors c'est à l'image de la pop-up là, ça te permet justement de déplier les éléments sans JS. Tu mets aucun JS là, tu mets details, summary, et quand tu cliques sur summary, ça t'ouvre le dessous. Donc c'est parfait. Moi j'adore utiliser cette balise. Tu peux la styliser comme tu veux, etc. Mettre des flèches avant, après, enfin ce que tu veux. Alors on a déjà discuté la dernière fois. Non, il n'y a pas d'animation quand tu ouvres. Donc, effectivement, on m'avait déjà dit, il y a déjà un gars qui m'a dit ouais, mais moi j'avais bossé avec une agence, j'ai voulu utiliser, et effectivement il n'y a pas d'animation, donc ils ont de suite refusé, etc. Bon.
Un
peu brutal. Les animations arrivent, ça c'est, je sais que ça va arriver, ne serait-ce que voilà, l'ouverture un peu plus en transition. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une super balise, et en plus c'est totalement accessible, etc. Donc ça c'est top, enfin, moi je recommande, on en reparlera de toute façon après. Mais ce qui arrive là dans la conf, c'est l'exclusive accordion. En fait, c'est le fait que, en fait, actuellement, quand tu as plusieurs details, bah, tu peux les ouvrir tout en même temps, etc. Tu vois, t'en ouvres une, si tu en as une qui est ouverte, en fait, et que tu ouvres l'autre, tu es déjà sur l'exclusive. Normalement, ouais, sur celui-là, voilà tu ouvres les deux en même temps, etc. etc. Et ben, là, ce qui arrive, en fait, c'est le fait de justement ce que tu faisais juste avant, c'est que si tu en as une d'ouverte, elle va se fermer et l'autre va s'ouvrir, en fait. C'est, en fait de pouvoir, c'est un attribut en fait qui te permet de n'ouvrir qu'une à la fois.
Okay.
Ça, c'est la nouveauté qui arrive.
Parce que nativement, en fait, tu peux ouvrir toutes les questions et tu as toutes les réponses. Et là, c'est le fait de t'en sélectionner qu'une seule et avec l'ajout d'un nom.
En fait, tu mets le même nom sur les details.
D'accord.
Donc, ça veut dire qu'ils sont dans le même groupe. Et donc, à partir de là, tout simplement, il sait qu'il doit fermer l'autre et ouvrir celle-là. C'est tout simple.
De manière native, il va.
Et c'est automatiquement totalement natif, sans JS, rien du tout. Enfin, moi, c'est une de mes balises préférées dernièrement. Okay. J'adore l'utiliser et elle marche super bien. Et tu peux vraiment la styliser à fond. Hein.
OK.
Ouais. Donc, là, c'est là. Et franchement, je vous recommande de l'utiliser parce qu'elle est top.
Parfait.
Sauf si votre agence vous dit non, moi je veux une perf, je veux de l'animation.
Mais c'est pas grave, je vous invite à aller voir la librairie JS qui s'appelle Auto Anime et vous verrez que en fait c'est une surcouche qu'on avait déjà parlé sur l'épisode d'animation, mais la librairie Auto Animate est plutôt très sympa parce que elle va automatiquement interpréter les éléments qui changent dans le DOM et va mettre un petit effet sympa. Donc en un attribut, alors oui, il y a du JavaScript, oui, c'est pas natif, il y a du JavaScript, mais on peut faire des animations ultra sympas et ultra chiadées en ajout qu'avec un mot.
Ouais.
Et c'est compatible en plus nativement en JS, mais React, Vue, Angular, tout, ils ont fait les sub-librairies et on met le bon attribut dans le composant. Et pouf, ça fait de l'animation.
Yes.
Yes, on déroule size, sizing content. C'est quoi? C'est sur les champs en fait, de texte où on va pouvoir les resizer. Et c'est quoi exactement?
En fait, tu mets cet attribut field sizing content et le champ, en fait, tu vas, si tu as un text area qui a une certaine hauteur, en fait, et ben, en fait, tu vas taper, tac, revenir à la ligne, etc. Et après, il va s'agrandir tout seul au fur et à mesure que tu vas taper.
Voilà. Enfin,
il y aura pas de barre de scroll. Le truc va s'agrandir et ça sera beau.
Enfin.
Enfin, voilà.
Ouais, ouais. Alors, il y a des librairies qui gèrent ça déjà, mais c'est vrai que c'est pour l'expérience utilisateur, c'est pourri, quoi. C'est vraiment. Tu ne peux pas faire sans ça, sinon, ton input de texte est pas du tout, enfin c'est pas ergonomique, c'est pas agréable à taper et donc tu pètes un câble, donc t'es obligé en fait d'avoir quelque chose pour gérer ça, et le fait que t'aies rien à faire et que ça soit natif, c'est une
ouais, et puis
chose.
En plus c'est juste un truc à mettre dans le CSS, donc alors ça sera pris en compte sur Chrome 123 et Edge, et puis si c'est pas pris en compte, bah tant pis, et si c'est pris en compte, bah ça marche, donc on peut l'utiliser dès aujourd'hui pour les Chrome, tout ça. Donc.
Nice.
Cool.
Nice. Des petits HR, on peut utiliser des HR.
HR in select, ouais. Dans les select, en fait, tout simplement, on peut mettre des HR entre les options pour séparer et donc mettre une barre. Ça semble. C'est pas grand chose, mais ça change la vie.
C'est un tout petit truc, mais.
Tu fais des groupes séparés, tout ça, machin. C'est cool, quoi. Et c'est pris en compte.
Nice.
Ça, c'est disponible dans pas mal de browsers. Alors après, je sais pas si tu mets un HR dans le select, si ça déconne après dans ceux qui sont pas pris en compte. Bah, à tester, j'ai pas testé, mais. Bon, à voir.
Nice.
Ah, la suivante, elle est top. La suivante, elle est top.
Align content for block. Waouh, c'est quoi ça?
Eh ben, en fait. C'est enfin, c'est-à-dire en 2024, on va pouvoir mettre en CSS align content, c'est quoi, c'est middle ou center, je sais plus, ouais center, et en fait ton contenu va s'aligner automatiquement dans ton élément bloc, donc dans n'importe quel élément, voilà, dans un div, tout ça. Le truc était, donc t'as pas besoin de mettre de flexbox, tout ça, et c'est natif.
Waouh! Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas.
Le fameux centrage, tu vois, qu'on n'a jamais pu faire.
En fait. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas trouvé en fait l'élément ultime qui va mettre tous les développeurs d'Alcor? Parce qu'il y a plein de petites vidéos qu'on trouve sur le net ou sur Twitter, des mèmes, où ça disait, OK, comment on fait pour centrer une div? Centrer un élément dans la div. Et là, t'as 20 000 approches. T'as l'approche flex, l'approche grid, l'approche margin auto.
Ouais.
Et là, en fait, avec ça, ça y est,
voilà.
C'est fini, on vient tuer le débat. Ça sera align content for block. Et ça, c'est, par contre, c'est implémenté quand?
C'est implémenté, c'est dans 120, dans Chrome 120, Edge 120 et Firefox 10. Donc c'est assez récent, mais ça marche. Si tu le mets, ça marchera pour toutes les dernières versions. Quoi.
Allez, terminé. Merci.
Terminé, plus besoin de mettre Flexbox et d'avoir tous les problèmes liés à Flexbox.
Et nice. Et Light Dark, c'est quoi cette propriété Light Dark?
Ah oui, alors ça c'est un raccourci. C'est dommage, j'ai pas mis l'exemple. Ouais, j'aurais dû mettre l'exemple. Mais c'est un raccourci en fait pour faire les thèmes Light ou thèmes Dark en fait. En fait, c'est au lieu de mettre un media query pour dire je suis dans le light ou je suis dans le dark, et ben tu mets tout simplement light dark avec les deux couleurs sur l'élément pour la light et pour la dark entre parenthèses, et ça prend en compte, voilà, t'as plus besoin, okay. Donc ça te diminue le code CSS, et avec juste cette propriété tu peux mettre les deux couleurs disponibles.
Et ce qui voudrait dire qu'en fait tu gères pas le light ou le dark côté, on va dire, de la page, mais plutôt sur l'élément. Mais ça, c'est ce qu'on faisait déjà, en fait, sur les couleurs.
Mais sauf que tu mettais une media query pour dire je suis dans le thème dark ou pas. Sauf que là, tu n'as plus besoin de la media query. En fait, tu supprimes la media query et tu mets light-dark, entre parenthèses, les deux couleurs, et ça prend l'une ou l'autre en fonction du thème.
Ok. J'ai compris. Ok. Nice.
Évolution. Ça, c'est récent aussi. Hein. Chrome 123, Firefox 120, 17.5 pour Safari. C'est très récent, mais voilà. Petit à petit, on va l'implémenter et ça marchera partout.
D'accord. Deuxième vidéo aussi de la Google I.O. Toutes ces vidéos sont disponibles sur Chrome for Developer, sur la chaîne YouTube Chrome for Developer. Là, c'est une conférence pareille de 40 minutes. On est quasiment sur le même temps que la première. Là, c'est Rachel, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Rachel Andrew,
voilà, qui est, alors je ne vais pas dire la mama du CSS, mais c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est dans l'écosystème CSS depuis des années, qui a vraiment fait la promotion des Flexbox, des grids, de toutes ces nouvelles propriétés qu'on utilise. Et là, en fait, elle revient sur cette Google I.O. pour nous parler de tous les éléments, leur utilisation. J'ai vu un petit as qui est sorti, qui offre vraiment des possibilités de maboule, quoi.
Ouais, elle revient sur les... alors, c'était proche de la première vidéo de CSS, mais là, elle revient sur les principales évolutions, ce qui est disponible, en fait, dans les navigateurs. Donc là, ce qu'on va lister, en fait, c'est la plupart sont disponibles dans tous les navigateurs, dans des versions plus ou moins récentes. Mais voilà, c'est vraiment les propriétés, enfin, les éléments qu'il faut connaître en tant que développeur, parce que la plupart sont implémentés et qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser, quoi. Clairement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début de la conf, elle explique que pour beaucoup de gens, c'est difficile en fait de se tenir à jour sur les nouveautés CSS, HTML, tout ça qui sont implémentées dans les navigateurs. Donc, double slash, c'est là pour ça. On vous tient au courant, juste en nous écoutant.
Nice, top. T'as le petit placement de produit nickel, ouais, carrément. Donc, y a les container query qui sont de vraiment une bonne pratique maintenant et qui sont implémentées partout.
Ouais, dans l'ensemble, c'est quand même bien implémenté. Chrome 105, Firefox 110 et Safari 16. Donc, on est quand même dans des versions. C'est pas les plus récentes, donc c'est dans. Il faudrait regarder dans Can I Use, mais on est dans des versions quand même... on doit être à 80% tout ça d'utilisation, 80, peut-être 85% à tester. Donc, container query, ça permet de tester... Ça vise, en fait, pour rappeler le conteneur en lui-même. Les media query, c'est la fenêtre, et donc les éléments se dimensionnent par rapport à la fenêtre, la taille de la fenêtre. Le container query, c'est par rapport à la taille de l'élément, en fait. Tu vises un...
De l'élément parent.
Voilà.
Le media query, le parent, en fait, c'est la taille de l'écran, enfin du document, alors que le container query, c'est la taille de l'élément que tu as ciblé.
Voilà, tout simplement. Donc ça permet d'être très très précis, et pour un même élément, en fonction de sa position, de la taille qu'il a disponible, en fait, il va prendre différents aspects. Donc c'est vraiment très précis, et c'est une propriété qui est super utile. Voilà, nice. Et qui est pas mal à utiliser.
Et il y a un autre truc sur lequel as qu'on a pour le coup on a déjà parlé c'est vraiment pour moi ça c'est un game changer quand même
complètement. Deux points as c'est donc implémenter Chrome 105. Chrome ça fait quand même un petit moment. Firefox 121 c'est un peu plus récent et Safari 15.4 ça doit faire peut-être 2 ans un truc comme ça. 2.1, ça permet de cibler en fait un élément. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur en fait, voilà, en fonction de ce qu'il a dedans. Donc s'il est vide, s'il est tel élément dans tel état, tout ça. Donc on peut aller très loin. Ça évite d'utiliser du JS parce qu'avant on était obligé d'utiliser du JS pour définir ce qui était contenu dans un élément. Avec le AS, on peut tout faire en CSS. Donc très très puissant. C'est une des propriétés les plus puissantes là qui est sortie dernièrement, clairement.
C'est une pseudo classe.
Ouais, c'est ça.
Ouais. mais très, 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 très super puissant. Nice. Un autre point aussi, c'est les grids. Alors, OK, ça fait super longtemps que c'est utilisé, les grids. On ne saurait vous reconseiller d'utiliser des grids pour faire des layouts. Pour moi, c'est l'élément le plus intéressant. C'est vraiment la construction de ta page avec les différents éléments de ton layout. Par contre, ce qui est nouveau, c'est justement les sub-grids. Donc, c'est de pouvoir contrôler les éléments internes, en fait, on va dire les grands-enfants de ce layout-là, quoi. C'est ça ?
Ouais. De toute façon, alors, comme tu dis, si vous n'utilisez pas Grid aujourd'hui, franchement, c'est quand même bien dommage parce que ça apporte énormément de choses. et pas que faire des grids. Hein, personnellement, j'utilise pour. Enfin, on peut vraiment positionner les éléments précisément.
Je suis complètement d'accord. Juste un tout petit truc où j'utilise Grid, où en fait, au lieu de faire trois positionnements, où en fait, si je dois centrer verticalement et horizontalement, en première approche, ça serait possible de faire un flex, après un justify item center et un item center. Et donc en fait, je vais centrer en horizontal et en vertical. Sauf que j'ai tapé trois propriétés. Et donc, si je fais un grid avec place, content, center, ça le fait automatiquement. Et donc, je n'ai tapé que deux propriétés. Je suis une grosse feignasse. Mais, mais en tout cas, sur des petits éléments où je veux centrer les deux, je vais utiliser beaucoup. Donc, même sur des petits éléments, grid, c'est pas stupide, quoi.
Non, c'est pas stupide. Et donc, la problématique, c'est quand tu fais une grid, en fait, tous les éléments intérieurs deviennent des grid items. Et donc on pouvait pas positionner. Donc là, je donne l'exemple de trois photos avec le descriptif de l'image qui est forcément, si ça revient sur deux lignes, c'est pas aligné, etc. Donc avec grid subgrid, en fait, tu vas pouvoir aligner les grid items à l'intérieur, etc. Donc c'est une avancée pour pouvoir positionner enfin les textes, les titres. Enfin, qui n'a pas déjà eu des titres sur deux lignes et les autres sur une ligne et qui sont du coup pas alignés, etc. Enfin, c'est le truc classique, quoi. Ouais. Donc, Subgrid permet d'aligner. Voilà l'exemple qu'elle donne. Voilà, après, c'est super aligné, c'est parfait. Donc, tout le monde est content, le client est content.
et nous, on a utilisé une nouvelle propriété.
C'est encore assez récent par rapport au reste, 117, 71 et 16. Mais c'est déjà disponible. Et rien n'empêche. Alors, c'est ça qui est cool, c'est que le CSS, c'est quand c'est pas disponible dans le navigateur, il l'ignore, en fait, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Ceux qui le prennent en charge vont l'utiliser et ceux qui ne le prennent pas en charge l'ignorent. Donc faut pas hésiter à utiliser des choses assez nouvelles en CSS. Ça sera pris en compte pour les nouveaux navigateurs.
Et comme ça, en fait, notre code est future-proof, est déjà prêt pour le futur.
Carrément.
Donc ça c'est bien. Autre avancée, alors c'est celle qui fait débat entre nous. Est-ce qu'il faut mettre du CSS nesté ou pas? Pour petit historique, avant on était obligé d'utiliser des post compilateurs, donc du SAS, du LESS, du post CSS, où en fait on venait imbriquer du CSS les uns dans les autres, donc des classes dans des classes dans les classes, voilà, pour pouvoir encapsuler tout ça. Et ça, en fait, cette propriété devient native maintenant avec le CSS nesté. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut nester ? Ça nous tire.
Alors, contrairement à ce que je viens de dire juste avant, où on peut utiliser les propriétés CSS, ça, le CSS nesting, on ne peut pas l'utiliser si jamais ce n'est pas pris en compte. Attention à ça, parce que je pense que le CSS va complètement déconner si jamais ce n'est pas pris en compte. Donc, donc ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'évite de l'utiliser, mais... Voilà, pour ceux qui veulent l'utiliser, le CSS nesting est disponible donc nativement maintenant avec l'équivalent, c'est quasiment la même écriture que du SAS, à quelques différences près, mais voilà, c'est disponible dans les navigateurs les plus récents.
Voilà. Nice. Autre fait et autre balise qu'on utilise souvent, ça va être l'élément de search, en tout cas on va faire de la recherche et comment on va utiliser ça, comment on va l'implémenter en HTML. Il y a un élément qui s'appelle search et qu'est-ce que ça amène de nouveau?
Bah en fait, c'est juste un input où tu vas mettre search dessus. Et en fait, ce sera natif, accessible, etc. Voilà.
Ok, aussi donc simple. En fait, c'est un input enrichi, on pourrait dire.
Ouais, c'est ça, avec une croix pour vider, etc. Enfin, un truc natif, quoi. Voilà, un reset et tout ça. Donc,
Ok.
Et celui-là, il est très simple. Celui-là est super simple.
Pour le coup, celui-là, il n'y a rien qui...
Ça ne changera pas la vie.
Ouais, ça ne va pas changer la vie. Mais si vous faites du search... avec, par exemple, Melisearch, je dis ça, je dis rien. super intéressant. Ok. Autre point qui sort, c'est les responsables vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des lecteurs où, en fait, on va garder l'aspect, le ratio, c'est quoi?
Alors, j'aurais dû mettre un exemple. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre un exemple. Bah, c'est tout simplement, tu sais, dans les images, tu peux mettre différentes... image en fonction avec une tu mets pour telle taille, si c'est supérieur à 500 ça sera ça, si
le source 7
voilà le source 7 etc. Et ben en fait c'était pas dispo dans les vidéos, et ben ça va être dispo dans les vidéos, voilà, tout simplement. On pourra mettre un affichage, une vidéo différente en fonction si c'est un mobile, si c'est un desktop, etc. Et ça en natif dans le HTML.
D'accord, donc en fait c'est le source 7 pour la vidéo en fait.
Ouais, en quelque sorte, ouais. Oui, c'est ça.
Excellent. Et potentiellement, ce qui voudrait dire que sur Twitter, on pourrait dire qu'on mettrait... en fait, si on a un aspect Twitter, on met une vidéo carrée. Si on est sur YouTube, on met une vidéo en 16:9. Et si on est sur Insta, on met une vidéo en verticale. Potentiellement, on pourrait faire ça, en fait. C'est ça ? Parce on aurait le lecteur qui en fait viendrait appeler les trois vidéos différentes, mais on aurait que le même lecteur avec les trois vidéos différentes.
Avec les conditions,
et ils seront interprétés de manière nice. Ça c'est pas mal.
Ça c'est cool. Et puis, étonnamment, c'était implémenté dans Safari depuis la version 3. Donc, ça fait un moment que ça existe dans Safari. Mais évidemment, pas dans les autres. Donc, maintenant, ça sera disponible depuis la version 120 dans tous les autres.
Ouais. Nice. Autre point, inner attribute. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça amène?
L'inner attribute, en fait, c'est un attribut que tu mets sur n'importe quel élément. Et l'exemple qu'on va donner, c'est tu vas ouvrir une pop-up et tout ce qui est derrière, en fait, tu vas mettre inert. Ça veut dire que tout ce qui est derrière n'est pas sélectionnable. En fait, tout simplement, ça devient non sélectionnable, non accessible, etc., non cliquable, etc. Donc, c'est juste un attribut qu'on rajoute et qui rend l'élément non sélectionnable et non cliquable. Voilà.
Inert.
Inert. C'est super. Le mot est bien choisi.
ouais, bien sûr. Ce qui va nous. Ouais, là, je pense que l'exemple de la modale est vraiment très, très parlant. Et quand tu cliques sur l'élément.
Ouais, et en plus, au niveau accessibilité, en fait, ce qu'il fait, c'est que si tu as une modale et que le reste est en inert, ben en fait, si tu navigues en tabulation, ben ça n'ira pas sur les éléments inertes. Ça restera dans la modale, tu vois. Donc, il y a un côté accessibilité aussi qui est vachement important.
Yes. Couleur, pareil, nouvelle propriété sur les couleurs, ou en tout cas, on va pouvoir mixer les couleurs, même si ça, c'est déjà implémenté pas mal sur les blends ou les choses comme ça, les saturate,
il y a des choses qui sont jouées
avec pas mal de choses, ça, déjà.
Ouais, mais tout n'est pas dispo, mais oui, comme tu dis, il y en a déjà des dispo. Par contre, celle-là, Color Mix, elle est pas mal. Elle arrive... En fait, ça te permet de mixer deux couleurs, en fait.
D'accord.
Tout simplement. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir... Alors, c'est l'exemple le plus donné sur Color Mix, c'est de pouvoir faire des teintes de couleurs. Par exemple, tu as une couleur primary en bleu, et ensuite, tu vas lui mettre du blanc à différents pourcentages, et ça va te faire une teinte de primary avec différents états. Ça, c'est souvent l'exemple qui est le plus donné. Donc,
ok. Voilà. Après, j'ai toujours pas compris l'avantage de ces nouveaux formats de couleurs, là, les OK, LCH, tout ça. Alors, pour le coup, j'ai pas fait l'effort, et c'est de ma faute, hein. J'ai pas fait l'effort de me renseigner et de lire quels étaient les specs.
Ouais.
Et en fait, j'ai pas trouvé l'avantage d'utiliser ça. Ok. Si quelqu'un a une info, je prends quoi.
Non, mais l'avantage, en fait, c'est que ça ouvre le spectre des couleurs. Et donc, tu as plus de possibilités d'être au plus près de la couleur définie dans la maquette.
D'accord.
Donc voilà, c'est surtout ça. Ça ouvre le spectre, en fait, des luminosités, etc. Donc, on a plus de couleurs qu'avant, en fait, tout simplement. C'est ce okay. que ça apporte.
Un niveau de contrôle d'exactitude de couleur bien plus élevé, quoi.
Ouais, alors après, la plupart du temps, pour la plupart des maquettes, ce ne sera pas vraiment utile, mais peut-être potentiellement pour certains éléments voilà, qui sont très poussés en couleur, etc. Ça peut être utile, je ne sais pas. Mais...
Après, sur...
pour l'instant, apparemment, comme moi, tu n'as pas eu le besoin pour l'instant de ces nouvelles couleurs. Après, ce n'est pas pris en charge par tous les browsers, mais ouais. Moi, celle que j'utilise beaucoup, c'est la HLS en ce moment, je crois.
Ok.
C'est pas mal.
Et ça fait quoi?
Bah en fait, c'est une façon d'écrire la couleur qui est plus simple et en changeant juste un paramètre, tu arrives à changer, ne serait-ce que pour les hovers, etc., la même couleur, tu peux changer légèrement la teinte et c'est plus simple.
Plutôt que et chercher c'est plus confort, quoi.
Ouais, c'est plus confort à écrire, ouais. Plus simple aussi à gérer.
Ok. Nice. Ok. Pas mal tout ça, ça va arriver au fur et à mesure et on devait aussi de se coupler un peu avec une sorte d'état en fait de ça existe dans le JS, ça existe dans plein de techno. Y a un rapport qui est sorti aussi qui s'appelle le State of HTML. Et c'est sorti quasiment en même temps et on se rend compte en fait que il y a beaucoup de nouveaux tags qui sont parfois utilisés, parfois pas du tout. Et donc en fait il y a toujours un décalage entre ce qui sort sur par un exemple typique, bah, c'est la Google I/O. On va parler des nouvelles balises. Sauf que qu'est-ce qui est vraiment utilisé, qu'est-ce que les développeurs utilisent vraiment et quels sont en fait le niveau de connaissance aussi de ces tags, ouais. Qui les utilise, sur quel site et tout ça. Et donc c'est l'objectif en fait de ce rapport State of HTML. Qui est sorti, on mettra évidemment les liens dans la description. Pour faire court, qu'est-ce que tu en as gardé et qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ce State of HTML?
Comme j'avais déjà dit dans le dernier épisode, ça a été beaucoup répondu par des Américains en majorité. Hein, donc, voilà, ce sera un State of HTML de plutôt... américain, même s'il y a des Européens tout ça qui ont répondu, mais ça reste une minorité. Mais ça reste, comme tu dis, c'est intéressant à regarder et voir l'évolution au fil des années parce qu'en fait, ça permet de savoir en fait ce qui est utilisé, ce que les gens connaissent. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas? Donc, il y a des résultats assez étonnants des fois. Mais voilà, j'ai noté un peu toutes les. Alors, il y en a une quarantaine de propriétés qui sont demandées. Moi, j'en ai noté 19, enfin même un peu moins. Donc voilà, on va faire le tour vite fait. Bon, j'espère que vous avez pris un aspirine, c'est bon là, c'est pas trop mal à la tête. C'est l'épisode technique aujourd'hui.
Ouais.
Mais ouais.
Vas-y. On peut commencer par des éléments qui sont assez utilisés et
ouais.
On va dire sur toute l'utilisation sémantique. Voilà, on pense à nav, main, aside, header, footer. Au lieu de faire une div id footer, on prend directement la balise sémantique footer et section. Et c'est beaucoup plus propre. Et au final, on se rend compte que c'est utilisé quand même à 50% par les personnes qui ont répondu, quoi.
Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, ouais, il y a des balises assez... Moi, j'appelle ces trucs assez basiques. Hein, c'est des choses que tu es censé connaître si tu es développeur. Donc, il y a, ouais, comme tu dis, les landmark elements, footer, etc. Il y a le tab index qui te permet de définir l'ordre des tabulations quand tu navigues à la tabulation au clavier. Tu vois, le lazy loading, je veux dire, si aujourd'hui tu ne connais pas le lazy loading, c'est quand même assez grave.
Ah, par contre, ah non, j'ai mal lu. En fait, c'est 96% au global qui les utilisent. Donc là, pour le coup, pour les éléments sémantiques, non, j'ai mal interprété les chiffres. Non, c'est 96. Ouais, ok, c'est plutôt bon. Et par exemple, sur le lazy loading que tu viens, qui est le chargement incrémental de l'image, que si elle est dans le view, dans l'écran, là, pour le coup, ça descend qu'à 57. Donc,
j'ai dit 57% uniquement qui l'utilisent, c'est quand même grave. Je suis assez étonné. Après, certains peut-être l'utilisent sans le savoir parce qu'il y a des CMS, tout ça, qui le mettent automatiquement parfois. Donc voilà, on ne sait pas. Ou si tu utilises Next, par exemple, il va mettre automatiquement du lazy loading sur les images. Donc peut-être qu'il l'utilise sans le savoir. Tu vois. C'est la magie des trucs. Ouais. les SRC7 et les size attributes, c'est pareil, tu vois, c'est pour rendre l'image en fonction de la taille de l'écran, comme on parlait pour les vidéos. C'est pareil, il y a des, tu vois, c'est que 53 qui l'utilisent, donc il dit bon, finalement, tu vois, il y a encore du boulot au niveau de la performance, parce que les isoling, SRC7, tout ça, c'est toutes des choses de performance, et on voit qu'il y a que la moitié qui l'utilisent, donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Ouais.
Mais c'est pour ça qu'il y a un super épisode sur la performance avec Erwan, sur l'épisode qu'on avait fait avec lui, où justement il nous expliquait de comment utiliser et implémenter, on va dire, nativement toutes ces best practices pour éviter en fait de faire de la performance a posteriori, parce que c'est toujours plus difficile en fait de faire de la performance a posteriori une fois que le code est shippé, une fois que c'est mis en place. C'est beaucoup plus dur d'aller chercher de la performance, alors que si nativement on a implémenté les bonnes choses, en fait nativement c'est performant.
Ouais, faut, de toute façon c'est clair, la performance, il faut déjà faut se faire une base de connaissances, parce que c'est pas automatique, c'est pas magique. Souvent on pense que je sors un site statique, ça sera rapide. Non, en fait tu peux faire un site statique lent aussi, hein, si tu mets des images trop lourdes, etc. Revenons au state of HTML. Il y a toute une partie aussi qui concerne les web components. Alors ça, on passera dessus parce que c'est assez détaillé, donc on va pas non plus tout ça. On va revenir sur les éléments. Si tu vas dans feature, tu auras tous les éléments les uns à la suite. Normalement, t'es dedans déjà. Ouais, t'es déjà dedans. Donc j'avais noté dialogue élément. Dialogue élément, il est en deuxième, non?
Non, plus haut. Dialogue, details. Non, je n'ai pas le dialogue. Mais je
l'ai pas mis dans l'ordre.
Je vais le trouver, t'inquiète.
Donc, ça, par exemple, il y avait 22% qui n'en ont jamais entendu parler. Donc, c'est un élément qui est assez récent, qui te permet d'ouvrir une sorte de modal. Mais voilà, assez étonnant quand même. Parce que normalement, il est implémenté un peu partout. Bon. Details et summary, on en a parlé juste avant, ce fameux permet de faire des éléments collapsables, des FAQ, tout ça. Pareil, 27% qu'on n'a jamais entendu parler, donc, bon, sauf les gens qui écoutent double slash.
Qui écoutent double slash.
Ça, maintenant, vous savez, utiliser details.
Details et summary, ouais.
J'avais les ressources ints. Donc, tout ce qui est, tu sais, les preloads, tout ça, quand tu peux préloader une image ou un code, des fontes ou ne serait-ce qu'un fichier JavaScript, etc.
Ouais, en fait.
Que tu vas mettre dans le head.
Ouais, par exemple, tu vas faire un defer ou tu vas faire un async sur ton chargement de script pour éviter, en fait, de bloquer le rendu de ta page, quoi, c'est ça?
Voilà, toutes ces choses-là, voilà, qui permettent de. Voilà, toujours pareil, performance. Quand tu vois, 29% n'en ont jamais entendu parler. Donc, j'ai l'impression que le côté performance, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Ouais, clairement. Ouais. Mais, en fait, c'est une méconnaissance de l'utilisation de toutes ces attributs, en fait, qui, pour le coup, en fait, te permettrait ou permettrait d'avoir un site beaucoup plus performant. Ouais, c'est clair.
Mais c'est des choses, en fait, qui ont été implémentées.
Il y a longtemps, beaucoup. En plus.
Il y a un moment, et beaucoup par l'équipe Google, de Chrome, en fait, pour améliorer les performances, parce qu'ils sont focus un peu performance. Alors, et c'est des choses qui sont utilisables aujourd'hui. Je veux dire, tu peux vraiment changer. Tu sais, le LCP, l'élément le plus gros quand tu as le chargement de la page, un prefetch ou un preload au début de la page sur une image qui est en LCP, mais ça te change le résultat du test, en fait. Ça change tout. Donc, il y a des choses comme ça qui sont très simples à mettre en place, et qui apparemment, pour 29% des gens, ils savent pas ce que c'est. Donc, bon. Il y a le form data. Le form data, c'est un truc JavaScript qui permet souvent utilisé pour les formulaires, pour renvoyer via Axios les data, tout ça. Donc, voilà.
T'as jamais utilisé ça?
Moi, j'utilise, moi.
Ah ok, j'étais là.
Ah non, c'est souvent même des fois obligé d'utiliser avec
certaines
API, tout ça.
Exactement, en fait, t'as beaucoup de services où t'es obligé d'avoir ton type de données formaté comme ça, quoi.
Ouais, donc, 32%, jamais entendu parler. T'imagines
C'est énorme.
Et ça, en plus, c'est un truc qui est dispo dans tous les browsers. Quoi, je veux dire.
Ouais, nativement.
D'ailleurs,
quoi.
Tu l'as nativement. Juste là, tu vois, tu as 50% qui ont l'air de l'utiliser, et puis 16% qui en ont entendu parler, et 32% qui n'en ont jamais entendu parler.
C'est assez.
C'est assez fou, quoi. Donc, ceux qui écoutent l'épisode, voilà, Form Data.
Form Data, les gars.
Regardez sur MDN. On a Datalist, un élément intéressant. Alors, personnellement, je ne l'utilise jamais, mais tu as quand même 41% des gens qui n'ont jamais entendu parler. Datalist, tu mets une Datalist sous un input et ça te fait une sorte de suggestion. En fait, tu commences à taper dans l'input et ça va te suggérer en fait, les éléments de Datalist qui correspondent à ce que tu as tapé. En fait, c'est une sorte de suggestion, mais dans la page.
De select. En fait, c'est le mix un peu de l'input et du select. En fait,
ouais.
C'est un peu ça. Alors, personnellement, moi, en natif, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je suppute que la librairie de composants que j'utilise utilise ça.
Ah, voilà. De toute façon, c'est clair parce que c'est implémenté massivement dans tous les browsers. C'est dispo. Donc, ça, tu peux l'utiliser sans problème. Bah, 41% des gens n'ont jamais entendu parler. Bon, c'est comme ça. Popover API. 53% des gens n'ont jamais entendu parler. Pareil, Popover récent, mais quand même. Je veux dire, en plus, si tu regardes un peu les vidéos YouTube, tout ça, Popover, c'est une des choses qui a été implémentée récemment, mais qui est quand même disponible, tout ça. Donc, normalement, tu devrais connaître au moins la Popover. Bon. Je suis assez dubitatif sur certains résultats, en fait.
Mais t'es triste, en fait.
je me rends compte que, il y a plein. Enfin, je veux dire, avec le web aujourd'hui, on a. L'information est disponible de partout. Tu as des vidéos, tu as tout ce que tu veux.
Ouais, faut-il encore faire l'effort. Mais autre truc qui est sympa, là, pour le coup, moi, je me suis pas mal penché là-dessus parce que j'ai fait des versions un peu mobiles et PWA. Une API qui... Et là, je suis super triste de voir qu'il y a 70% quasiment des gens qui ne le connaissent pas. C'est le WebShare API. Et ça, en fait, c'est super sympa quand tu veux partager le lien avec quelqu'un sur iOS. Ben, en fait, tu as un bouton et ça va t'ouvrir la pop-up et tu vas retrouver en fait tous tes éléments si tu veux partager sur WhatsApp, sur Signal, sur Telegram et tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir directement le faire. Et ça, en fait, moi, j'ai découvert ça avec justement une liste en fait de toutes les API qu'on peut utiliser pour les PWA. Et en fait, le WebShare a mis du temps à arriver et il est maintenant plutôt bien implémenté. Par contre, toujours pareil.
Mobile, ouais.
Sur mobile, l'expérience est beaucoup plus intéressante sur mobile, hein, c'est clair.
Ah bah ça te donne la même expérience de partage que sur les applications natives en fait. Ça t'ouvre le même système, c'est vraiment top. Et 67% des gens qui ne connaissent pas. Ouais. Vous connaissez aussi les auditeurs et auditrices. Finir. Il y a le inert qu'on a parlé juste avant. 80% des gens qui n'ont jamais entendu parler, le inert. Donc, voilà. Et un qui est moins connu, par contre, c'est vrai, le badging API. Ça, c'est pareil, c'est pour les PWA, tout ça. C'est une API pour mettre des badges, en fait, au niveau des onglets, tout ça, ou dans les applications.
Ouais, c'est super sympa. Par exemple, une notification qu'on a reçue sur dans notre navigateur. Aujourd'hui, iOS gère les notifications, donc PWA plus notifications, c'est possible, vous pouvez faire ça. Et couplé avec ce badge API, vous avez la petite pastille directement sur l'icône. Donc c'est quand même super, super intéressant.
Ouais, c'est encore plus ou moins expérimental, voire peu implémenté, mais ça arrive, voilà. Donc il y a une quarantaine de propriétés à regarder. C'est toujours super intéressant. Moi, j'adore ces trucs-là parce que c'est toujours très intéressant de découvrir parfois des choses que tu connais pas en fait. Ah ouais, tiens, je connaissais pas cette API, etc. Donc la web share, tout ça, donc voilà. Donc bah, je recommande d'aller voir les résultats. C'est intéressant, regardez les API, il y a souvent le lien sur MDM et ça permet de se documenter, d'en apprendre plus, quoi.
Yes. Bah, voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour en fait, des éléments HTML qui sont sortis de toutes ces nouvelles tendances qui arrivent. Et en fait, moi, je vois vraiment ça comme des outils. En fait. C'est des outils dans ma boîte à outils et plus j'ai d'outils dans ma boîte à outils de développeur, plus je vais me permettre en fait, de faire des sites performants, rapides et de simplifier en fait, parce que bah, le tag natif, le bon mot, c'est vraiment une histoire de vocabulaire en fait. Plus j'ai de vocabulaire, plus c'est facile pour moi d'exprimer, de construire ma phrase. Et ouais, bah, là, ça va être exactement pareil avec toutes ces propriétés natives en HTML. Je vais pouvoir faire plus de choses, moins de complexité, c'est plus simple, c'est plus performant. C'est plus facile, donc d'où l'intérêt en fait de suivre toutes ces tendances-là. Et on s'excuse pour toutes les personnes qui ont déjà mal à la tête avec tous les tags, mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout de l'épisode, pensez à nous mettre un petit pouce et dire que vous êtes plutôt fan des tags HTML. Dites-nous aussi lesquels vous utilisez, lesquels vous n'utilisez pas, ceux que vous avez découverts peut-être.
Mmh.
Et ouais, ouais. On est toujours à l'écoute de vos retours. Un grand merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Allez, à plus. Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.